Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 16. À la Joubardière, pendant ce temps, les journées semblent trop longues, au contraire. Les travaux du dehors sont terminés. Le père Baillargeon, devenu casanier et frileux comme les chats au premier froid, vient s'asseoir devant l'âtre sur une chaise basse, douillettement recouverte d'une peau de mouton. Il y reste des heures, à fumer et à cracher sur les landiers, ce qui met de fort méchante humeur la Baillargeonne. La bonne femme, elle, ne demeure jamais en repos. Elle tracasse du matin au soir, passant comme une navette de la cuisine à la basse-cour et de l'étable au fournil. La lessive d'automne est finie. Les buandières ont rapporté le linge du lavoir et l'ont fait sécher dans le verger où, chaque soir, Thérèse en va chercher des brassées qu'elle monte dans sa chambre, car c'est elle qui se charge du pliage et du raccommodage. Dès le matin, elle s'installe près de la fenêtre et, ayant à ses pieds la manne où les chemises et les draps de toile bise sont entassés, elle tire l'aiguille tout en regardant à travers les carreaux verdâtres les collines brumeuses qui s'échelonnent dans la direction du bourg. Les jachères nues ont des teintes d'un violet sombre. Le blé, qui commence à pousser, s'étend çà et là en carrés verdoyants au milieu des labours bruns. Au ciel, de longs nuages d'un gris noir fuient vers les tours de Précigny comme s'ils étaient chassés par une puissance mystérieuse. Un vol de corbeaux plane dans l'air, puis va s'abattre sur des champs ensemencés. Et Thérèse songe à Étienne. Elle se demande quels tristes incidents peuvent le retenir à Saint-Clémentin. Elle commence à s'étonner d'une si longue absence. Depuis le départ du jeune homme, elle n'est descendue qu'une fois au bourg pour assister à la grand-messe de la Toussaint. Dans les regards et dans les sourires des gens assemblés à l'église, elle a cru retrouver cette expression à la fois curieuse, sournoise et ironique dont elle a tant souffert déjà un soir dans le salon des palatries. Mal à l'aise et inquiète, elle est revenue très triste à la Joubardière et n'est plus retournée à Précigny. Elle ne doute pas d'Étienne, mais elle est troublée. Chaque matin, elle se lève, anxieuse, en se disant « Il reviendra peut-être aujourd'hui. » Les heures se traînent lentement jusqu'au soir et la borderie s'endort sans qu'aucun visiteur soit venu la distraire de sa solitude. La Joubardière, si joyeuse, si chantante et ensoleillée à l'automne, ressemble maintenant à un tombeau. Thérèse n'a plus sa vivacité d'autrefois. Elle ne fredonne plus en tirant son aiguille. Elle est pâle, ses yeux sont cernés, ses sourcils se rapprochent et se froncent avec une expression assombrie, inquiétante. Elle a perdu l'appétit. En la voyant manger du bout des dents, le vieux Baillargeon secoue la tête et la Baillargeonne se désole. Ainsi, tout novembre s'écoule. Puis décembre arrive avec ses claires journées de gelée, où le ciel est tout bleu et la prairie toute blanche de givre. La borderie est si bien enfouie entre les bois des courtils et les replis de la côte des murets qu'aucune des rumeurs de la ville n'y parvient. Les journaux y sont inconnus et le piéton ne s'y arrête pas quatre fois dans l'année. Les relations de voisinage, déjà peu fréquentes en été, sont tout à fait nulles au cœur de l'hiver. On n'y sait rien de la catastrophe de Simon Moga. On n'y a même pas appris le retour d'Étienne et son brusque départ pour le Châtelier. Pourtant, un pressentiment douloureux agite sans cesse l'esprit de Thérèse. Elle devine que quelque chose de grave a dû se passer à Saint-Clémentin. Elle craint qu'Étienne n'y ait été retenu par un deuil ou une maladie. Et un soir, perdant patience, elle prend le parti d'écrire à Célestin Thiffenot. Elle connaît la discrétion de Célestin et son dévouement pour la maison Mauga. Elle est certaine que celui-là, tout en gardant le secret, lui fera connaître la vérité. Une fois la lettre écrite et confiée au piéton qui passe chaque matin à la corne du bois, elle revient bravement s'enfermer dans sa chambre haute. Elle reprend son aiguille et elle attend. Elle attend, le cœur plein d'angoisse, calculant à chaque aiguillée les heures que met une lettre pour parvenir à Saint-Clémentin et le temps nécessaire à l'expédition de la réponse. Cependant, la semaine de Noël approche et le tableau d'Étienne est presque achevé. Du moins, tout ce qui devait être exécuté en plein air et sur les lieux est terminé. Maintenant, la toile est remisée dans la maison de M. Minick. Étienne, avant de s'occuper des derniers détails, contemple son œuvre sous le jour plus égal et plus sobre de l'atelier. Le tableau est bienvenu et l'ensemble donne vivement l'impression que l'artiste a voulu traduire. C'est un enterrement de jeune fille. Le cercueil, voilé d'un drap blanc, est porté par quatre paysannes robustes. Le cortège sort du porche moussu du châtelier et se répand sur le chemin qui longe les douves. En avant, trois filles de la congrégation du rosaire, en robe blanche, escortent la bannière de la Vierge brodée d'argent mat. Le prêtre et les chantres en surplis les suivent. Aux mains des enfants de chœur, les chandeliers d'argent et au-dessus de leur tête, le crucifix scintille doucement. Autour des porteurs, les cierges jettent un flamboiement blafard. Enfin, derrière le cercueil, dans l'ombre du porche, le groupe des parents et des amis, en deuil, forme repoussoir. Ce blanc convoi de vierges chemine lentement sur le sol semé d'une légère poudre de neige entre les peupliers étincelants de givre. Les bâtiments du vieux châtelier s'enlèvent en noir sur un ciel lilas où des nuées, mollement tendues comme un manteau d'hermine, filtrent à travers leur blancheur la lumière assourdie d'un pâle soleil d'hiver. Les physionomies sont rustiques et graves. L'impression est mélancolique, sans mélange de sentimentalité. L'air circule à travers les groupes et les baigne délicatement. Il semble qu'on va entendre, à travers l'atmosphère vaporeuse, le tintement argentin de la cloche qui doit sonner là-bas, dans l'église, dont le clocher d'ardoise pointe entre les arbres. On se sent remué intimement par l'harmonie sympathique de ce paysage semé de givre et de ce blanc d'œil de jeune fille. On retrouve là, c'est l'arme des choses qui touche si profondément notre cœur parce qu'elles sont en quelque sorte le signe éloquent d'une mystérieuse parenté entre l'homme et la nature. On se dit que l'artiste qui a su rendre ses secrètes affinités les a vivement senties et a été vivement ému lui-même. En effet, Étienne a été plus d'une fois secoué par une poignante émotion en travaillant à son tableau. Ne mène-t-il pas lui aussi le deuil de son amour et de ses meilleurs rêves de jeunesse? Lui aussi, pendant ces blanches journées de décembre, il a pleuré intérieurement sur ses espérances mortes et il a dit adieu à une jeune fille aimée. C'est son cœur qu'il a répandu sur cette toile. Et c'est pour cela sans doute que, rien qu'à la regarder, on se sent des larmes dans les yeux. Lui-même, en l'examinant sous ce jour froid de l'atelier, il est pris d'une tristesse navrante. Il songe qu'il faut faire une croix sur les jours heureux de sa jeunesse, qu'il faut rentrer à présent dans la lutte, dans l'inconnu, sans avoir à ses côtés la femme qu'il aimait, la Thérèse énergique et loyale, dont la tendresse robuste l'aurait soutenue. Un moment, le courage l'abandonne. Il est tenté de fuir la maison de M. Minnick, de gravir la côte des murets, de courir à la Joubardière pour voir Thérèse une dernière fois et lui exposer les raisons qui le condamnent à s'éloigner. Mais une réflexion accablante le cloue à sa place. S'il se présente à la Borderie, il aura l'air d'invoquer la pitié de celle qu'il aime et de chercher à peser sur sa volonté pour obtenir de son bon cœur un oui qu'elle ne dirait peut-être pas si elle était laissée à elle-même. Non, il ne fera pas cela. Il s'éloignera silencieusement et, une fois parti, il lui écrira pour lui donner une suprême explication. Demain soir, il sera à Paris et 80 lieues s'étendront entre lui et la Joubardière. Il va se rasseoir devant sa porte. Ses yeux s'arrêtent sur la jeune fille qui porte la bannière de la Vierge et dont la tête a été peinte d'après une étude de Mademoiselle Desroches, ébauchée à la Joubardière. C'est bien Thérèse, avec son teint mat et ses bandeaux bruns dépassant les tuyaux de la coiffe tourangelle. Ce sont bien ces mêmes lèvres rouges et franches, ces mêmes yeux aux prunelles brillantes comme des cerises noires, cette charmante et sauvage figure qu'il a tant aimée. Par instant, il croit la voir s'animer, et, fermant à demi les paupières, il songe au temps où il vivait près d'elle dans le clos de la Borderie. Au dehors, tout est silencieux. C'est dimanche, et M. Minnick est sorti. La paix de la solennité dominicale enveloppe le bourg. Dans l'air glacé, on entend seulement le tintement endormant et monotone des cloches des vêpres. Glissant de plus en plus dans le rêve, les yeux tout à fait clos, Étienne se laisse bercer par cette lente sonnerie. Soudain, il lui semble qu'on a poussé la porte de l'atelier, dont le tableau lui masque l'ouverture. Ses paupières se soulèvent à demi, et brusquement, il se dresse sur ses pieds. Ce n'est plus la figure peinte sur la toile. C'est Thérèse, en chair et en os, qu'il a devant lui. Thérèse ! Les franches lèvres rouges s'entr'ouvrent pour laisser passer un bon sourire. Les yeux noirs plongent dans ceux d'Étienne leur ferme et limpide regard, et, tout en se débarrassant de sa cape, « Depuis quand êtes-vous de retour ?» demande la jeune fille. Étienne se trouble, son héroïsme de tout à l'heure l'abandonne, et il balbutie et répond d'une façon évasive « Depuis hier seulement. »« Menteur !» s'écrie Thérèse en levant un doigt menaçant. Il baisse la tête et ne trouve plus rien à dire. « Vous êtes ici depuis 6 semaines, » continue-t-elle. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu à la Joubardière ?»« Je ne suis pas resté au bourg, » réplique enfin Étienne. « J'ai travaillé au châtelier où j'ai peint ceci. » Et il lui montre le tableau de l'enterrement. Mademoiselle Desroches examine attentivement la toile. Ses lèvres font la moue, ses sourcils se rapprochent. Tout à coup, une lueur mouillée passe dans ses yeux. « Hein ?» murmure-t-elle d'une voix moins nette. « Il y a une des figures qui me ressemble. » Après un silence, elle reprend. « C'est beau, bien que le sujet soit trop triste. Je comprends que ce travail vous est occupé, mais vous êtes tout de même très coupable de ne pas avoir donné de vos nouvelles. Ce n'est pas ce que vous m'aviez promis en partant. « Thérèse !» s'écrie Étienne. « Je ne suis pas revenu parce que j'avais à vous dire des choses trop pénibles et que je préférais vous les écrire. Si vous saviez ce qui s'est passé à Saint-Clémentin !»« Je le sais. Célestin m'a écrit. « Vous êtes au courant de tout ? » répète-t-il en rougissant et en baissant les yeux. « Je sais que maintenant vous êtes malheureux, comme je l'ai été. Mais... je ne vois pas en quoi votre malheur vous empêchait de venir chercher une réponse à la proposition que vous m'aviez faite dans le champ des Courtils. Ne vous en souvenez-vous plus? Une simple et bonne vie de paysan à nous deux.
Ah,
s'écrie-t-il d'une voix confuse et brusquement coupée de silence. « Cette offre, je ne puis plus, je ne dois plus la faire. Je suis déjà trop misérable. Je veux souffrir seul. Vous êtes un orgueilleux. Eh bien, moi, je suis moins fier. Et puisque vous ne vous décidiez pas à monter chez nous, je suis venu vous dire que j'accepte, parce que je sais que vous m'aimez, et parce que... Thérèse !» Il s'est rapproché d'elle et lui a pris les deux mains. « Parce que... je vous aime !» poursuit-elle en se laissant tomber dans ses bras. Ils restent longtemps ainsi, serrés l'un contre l'autre, devant le grand tableau muet. La maison est toujours silencieuse et comme assoupie. Au loin, seulement, les cloches de vêpres continuent à égrener leur sonnerie lente et berceuse.